Prends le Saint-Livre, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les apôtres sont partis à leur village acheter à manger et ils reviennent. Jean chapitre 4, verset 30. Je vous encourage à noter peut-être les versets que je vais vous citer. Je ne prendrai peut-être pas le temps de tous vous les expliquer, mais peut-être que vous pourriez demander au Seigneur qu'il vous les explique lui, dans des moments de communion personnelle avec lui. Jean chapitre 4, donc, je le répète, les apôtres reviennent d'un village où ils avaient été chercher à manger. Jean chapitre 4, verset 30. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns qu'aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur répondit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous gardez la page, s'il vous plaît. Vous venez avec moi dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 6, au verset 51. Un autre texte sur la nourriture, car beaucoup de textes parlent de la nourriture dans la parole de Dieu, c'est très facile à comprendre. Jean chapitre 6, verset 50. « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Regardez bien. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » N'oubliez pas que c'était la fête de Pâques. On allait tuer l'agneau pascal et Jésus parle de sa mort. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Je vous encourage pour votre édification personnelle de continuer la lecture. D'ailleurs, on pourrait juste lire le verset 63 où Jésus enseigne une très 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 grande vérité. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je reviens au chapitre 4. Les apôtres ont été chercher à manger pour nourrir leur corps. Jésus est resté là, au bord d'un puits. Il a pu parler à une femme, c'était la volonté de Dieu. Et lorsqu'il leur propose à manger, Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Notre frère Jérôme vient de nous partager un texte sur la fête des tabernacles où Jésus a proposé à tous les gens qui étaient là de venir à lui et de leur donner de l'eau vive, que même des fleuves d'eau vive couleraient après du sein des hommes et des femmes qui le prenaient. Alors je pose une question. Je vous demande de l'écouter sérieusement. Quand le Seigneur Jésus dit « J'ai à manger », il parle aux apôtres, « une nourriture que vous ne connaissez pas », je me pose très sérieusement la question. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, dans bien des églises, pourrait-il faire la même remarque à des chrétiens? Il y a une nourriture que vous ne connaissez pas. Il y a un breuvage que vous ne connaissez pas. Ça va très très loin, cette affaire, parce que nous avons un problème avec la nourriture spirituelle. Je ne parle pas de la nourriture matérielle. C'est très rare, les gens qui oublient de prendre un repas. C'est très très rare, tellement nous sommes soucieux de nous occuper de notre corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le top niveau dans la communion avec Dieu, c'est cette satisfaction qui est reliée au verset 34 lorsque Jésus dit, ça c'est le, pour moi c'est le top, le haut du panier. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la satisfaction du Seigneur Jésus, je ne sais pas si vous réalisez, le rassasiement du Seigneur Jésus, vous allez me dire, oui, c'est Jésus, bon, arrêtons. Le rassasiement du Seigneur, c'était de faire la volonté du Seigneur. Alors je nous pose la question, si vous deviez répondre sur un papier, tout à l'heure, on va vous donner un bulletin où vous allez voter oui ou non si vous êtes d'accord pour telle ou telle proposition par rapport à l'avenir de l'Église. Vous allez mettre oui, vous allez mettre non. Mais là, c'est pas important ça. Mais si on vous donnait un papier, si Dieu vous donnait un papier et qu'il vous demande, bien sûr, vous allez me dire oui, mais c'est vous, Monsieur Gau. Imaginons que ce soit Dieu qui vous pose la question, mon fils, c'est quoi pour toi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que vous écririez, je vous dis, en trois phrases, ou trois points, ou cinq points, qu'est-ce que vous écririez? C'est solennel, vous savez, la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont sortis de la volonté de Dieu, pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas pris au sérieux cette affaire de nourriture. La nourriture, c'est un sujet fondamental. Dernièrement, je lisais un rapport d'un pasteur qui régulièrement allait dans les pays de l'Est. Ça date de 50 ans de ça, mais c'est intéressant. Il partait dans les pays de l'Est faire des missions d'évangélisation. Et par la grâce de Dieu, il y avait des conversions. Et ils se sont rendus compte sur chaque mission. Écoutez bien, c'est catastrophique. Sur chaque mission où 100... Alors je vais parler en pourcentage, on est obligé. Sur 100 personnes qui s'étaient converties, une restait fidèle. Et ils se sont rendus compte avec leur petite enquête que ce n'était pas un problème de conversion. C'était un problème, c'est qu'il n'y avait pas de nourriture après. Il y avait de l'évangélisation qui était faite et on doit avoir à cœur l'évangélisation. Mais l'évangélisation, ça ne suffit pas. Il faut de l'édification derrière. Dieu a donné des évangélistes, Dieu a donné des pasteurs. Les évangélistes, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont chargés d'aller chercher des brebis perdues et de les amener dans le troupeau. Les pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont chargés de nourrir le troupeau. Donc il faut travailler à l'évangélisation. Et entre parenthèses, si vous n'y travaillez pas, demandez au Seigneur qu'il vous aide à savoir comment vous devez évangéliser, comment vous devez parler à quelqu'un. Est-ce que vous avez pris à cœur les fois où je vous ai dit, n'oubliez jamais, dans votre veste, dans votre sac à main, dans votre boîte à gants, etc., de prendre toujours un prospectus avec quelques évangiles pour les donner à des personnes que vous côtoierez, parce que ce n'est pas toujours évident de témoigner, mais c'est quand même important l'évangélisation. Mais il n'y a pas que l'évangélisation. L'évangélisation doit être suivie d'une véritable édification, par une véritable nourriture. Alors, on pourrait prendre plein de textes sur la nourriture. Je vais en prendre deux pour que vous réalisiez bien que c'est important. Dans 1 Pierre, au chapitre 2. Alors c'est vrai que moi, la question du Seigneur Jésus, la remarque de Jésus aux apôtres, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Est-ce que les chrétiens savent tous ce qu'est la nourriture spirituelle? 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Regardez ce que Dieu dit aux chrétiens. Dès qu'on est sauvé, et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne s'occupent que du salut. Vous allez me dire, mais c'est déjà pas mal. Eh oui, mais ça ne suffit pas. Il faut s'occuper de la croissance. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous... » croissiez, vous voyez, la croissance, pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alors peut-être c'est une question qu'on pourrait bien poser sur le questionnaire. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Je ne parle pas juste d'une expérience. Les 10 lépreux ont tous fait une très 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 belle expérience. Il y en a combien sur les 10 qui ont goûté que vraiment le Seigneur est bon? Combien? Un. Qui est revenu pour s'occuper de cette communion avec Dieu. Pourtant, ils avaient entre guillemets, fait une expérience. Mais c'est une chose de faire une expérience, c'en est une autre de goûter que le Seigneur est bon. Et la vie avec Dieu, la nourriture, là Dieu le sait. Pourquoi nous demandons des enfants de manger ? Pour qu'ils grandissent. Et la question de la nourriture spirituelle dans le royaume de Dieu est une question sérieuse. Vous avez dit, mais je lis ma Bible. Je ne vous demande pas si vous lisez votre Bible. Il y a des millions de croyants qui lisent la Bible. Il y a des millions de catholiques, de protestants, de baptistes, etc. qui lisent la Bible. Ça ne sert à rien. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Quand je me suis converti et que je suis rentré dans le ministère 3 ans après, alors je vous le dis parce que c'est important pour moi que je vous le dise. Je suis tombé sur un serviteur de Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça tient debout. Je suis tombé sur un serviteur de Dieu qui a... Je parle, ce n'était pas M. Roussel, ce n'était pas M. Berthalon, c'était un autre serviteur de Dieu qui était venu nous aider pendant quelques semaines. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, tu sais, il ne faut plus chanter sur les ailes de la foi. Il ne faut que des cantiques joyeux. Comme dans les psaumes. Écoutez bien, frère. Alors, j'ai lu les psaumes et je me suis rendu compte que dans les psaumes, ça veut dire poème chanté. Et je me suis rendu compte que dans les psaumes, il n'y a pas que des poèmes joyeux. Et nous avons, enfin pas nous, mais le corps de Christ a infiltré au sein des églises cette pensée qu'il faut que tout soit joyeux. D'ailleurs, même si vous regardez les météorologues, ils vous parlent de cette semaine, nous aurons une semaine formidable. Il va faire beau toute la semaine. Cette semaine, nous aurons une semaine pourrie, parce qu'il va pleuvoir toute la semaine. Mes frères et sœurs, c'est ridicule. Parce que je peux vous dire qu'il faut du soleil et il faut de la pluie. Et le monde religieux essaie d'introduire dans l'Église cette notion qu'il ne peut pas y avoir de difficultés. Moi, j'étais dans des églises, je l'ai vécu. Et je suis soucieux de ça. Et je suis peut-être même trop soucieux de ça. Dans le sens où quand je regarde les meneurs de chant, moi, j'étais dans des églises, il n'y avait que des cantiques sur la joie. Et bien sûr qu'il y a la joie. Mais on peut la perdre, la joie. Alors, j'aimerais pour cela lire avec vous 2 ou 3 textes pour que vous compreniez bien que les psaumes, d'ailleurs on a appelé les psaumes de louange. Moi je vous avoue que ce n'est pas le titre que moi j'aurais donné. Moi je n'aurais pas donné ce même titre. Les psaumes sur la présence de Dieu, oui. Mais vous savez, les titres qu'on a donnés à la Bible ne sont pas inspirés. Ce sont des hommes qui ont donné des noms aux titres. Attention, ce n'est pas ça qui est inspiré. Par exemple, on va lire quelques extraits de psaumes où David exprime ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'en plus, ce qu'on vit, il faut quand même l'exprimer. À Dieu. À Dieu, mes frères et sœurs. Psaume 19, verset 8. Et d'ailleurs, je vous encourage à le faire, peut-être dans une liste. Vous mettez les psaumes de louange et peut-être les psaumes de souffrance. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Dans la version Zadokan, je lisais cette semaine, la doctrine de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Un peu plus loin, au verset 3, oui. Du verset du psaume 23, David, c'est le psaume le plus connu, c'est un psaume de grâce vraiment. Vous connaissez le psaume 23? Oui, vous le connaissez tous. David est dans une communion avec Dieu. Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Vous êtes d'accord? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, etc. Il a écrit le psaume 25. Juste après, j'ai pris esprit à côté. Alors, on va lire à partir du verset 15. C'est le même David qui écrit des choses tout à fait différentes. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Donc là, on voit quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. C'est important. Alors, dans quel état il est ? Il fera sortir mes pieds du filet. Bon, il est déjà embarrassé. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné. Ah, il me semble que tu avais dit que tu resterais avec lui tout le temps. Enfin bon. Et je suis malheureux. Ah, il me semble que tu n'as pas dit pareil dans le psaume 23. Verset 17. On le lit ? Ouais. Les angoisses de mon cœur augmentent. Ah. Tire-moi de ma détresse. Ah bon ? Il était schizophrène, David ? Vois ma misère et ma peine, pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme, sauve-moi. Enfin, on peut continuer tous les textes. J'avais fait allusion il y a 2 ans, je crois, au psaume 88. Le psaume 88, c'est un psaume de lamentation. Tout le psaume, il finit même pas bien. Tout le psaume est un psaume de tristesse, d'abattement, de difficulté. Ça commence mal et ça finit mal. Il n'y a même pas « mais je mets ma confiance en Dieu ». Pourquoi ? Alors, il faut quand même se poser les bonnes questions si on veut comprendre le problème de la soif et de la nourriture. Parce que beaucoup de chrétiens sont sortis de la volonté de Dieu, n'ont pas pu croître dans la volonté de Dieu, parce que je n'ai pas donné ma deuxième lecture tout à l'heure quand je vous ai dit on va en lire deux. J'ai pris le texte sur le fait de désirer le lait spirituel, ça c'est pour tous les enfants de Dieu, ceux qui commencent, mais il est dit que Dieu a donné des pasteurs pour le perfectionnement des saints afin que nous professions la vérité, pour la croître. On va le lire quand même. Gardez le psaume. Je tiens parce que je sais que ce texte, je l'ai reçu dans la prière. Éphésiens chapitre 4, pourquoi Dieu a donné des pasteurs ? Pourquoi Dieu a donné des pasteurs ? Eh bien, lisons-le. Éphésiens chapitre 4, c'est un don. Le Seigneur a donné des pasteurs. Vous savez, c'est une grâce d'avoir des pasteurs dans l'église. La semaine dernière, j'ai eu une femme qui m'a appelé, me demandant si on n'avait pas un pasteur de disponible dans l'église. Ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas de pasteur. 7 ans. Ils cherchent un pasteur. Voilà, Michael. Éphésiens chapitre 4. Vous l'avez entendu ça ? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, voyez, les autres comme pasteurs. Pourquoi ? Pour, vous y êtes ? Regardez bien mes frères et sœurs, la nourriture c'est sérieux dans l'église. Les pasteurs, ils sont donnés, il n'est pas parlé d'évangélisation, il est parlé de perfectionnement des saints. Donc la volonté de Dieu c'est que vous croissiez, que vous grandissiez. La volonté de Dieu, c'est que nous fassions des progrès. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, et quoi ? À la connaissance du Fils de Dieu. Il n'est pas parlé d'évangélisation. Moi, je peux vous dire que quand un homme fait des progrès et quand il connaît le Fils de Dieu, je pense que l'évangélisation, elle se fait dans une église. Et regardez au verset 15. Non, on va lire le verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à quoi ? À tous égards. En qui ? En celui qui est le chef, Christ. Pas en confessant. Vous savez, confesser la vérité, c'est bien, dire voilà, Jésus-Christ est mon sauveur, Jésus-Christ est le Seigneur. Confesser, même un pécheur peut confesser certaines choses. Il ne nous est pas demandé de confesser, il nous est demandé de professer. Professer la vérité, ça veut dire la vivre. Si nous professons la vérité, si nous la vivons, nous croîtront et nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine. Et je reviens à ce serviteur de Dieu qui me disait qu'il fallait plus qu'on chante de cantiques tristes. Moi, je crois qu'il y a des cantiques qui expriment la souffrance, qu'on a besoin de chanter. Pourquoi donc Dieu a-t-il voulu que le psaume 88 soit dans la Bible ? Moi, je me suis posé la question quand j'ai médité il y a 2 ans ce psaume. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as... Franchement, je sais très bien que c'est intelligent, mais pourquoi il y a des psaumes aussi difficiles ? Eh bien, parce que la parole de Dieu, elle est intelligente, elle est objective. Et la parole de Dieu, elle traite tout ce que nous traversons. Il y a des moments où Dieu restaure notre âme. Et il y a des moments où notre âme, elle va pas bien du tout. Et c'est normal. Ça fait partie de la vie, mes frères et sœurs. Et moi, je vous encourage à relire les psaumes. Les psaumes ne sont pas tous des psaumes de louange. Les psaumes, ce sont des hommes qui, en communion avec Dieu, dans la présence de Dieu, ont exprimé ce qu'ils vivaient quand ils étaient fortifiés, eh bien, ou quand ils étaient à sec, quand ils étaient en difficulté, quand ils étaient dans la souffrance. Et nous devons accepter ces choses. Mes frères et sœurs, si nous faisons croire qu'il faut qu'il n'y ait que des étés dans l'Église, si nous faisons croire aux gens qu'il faut qu'ils fassent que beau pour être heureux, ce n'est pas vrai. Il faut aimer la pluie, il faut aimer le froid, il faut aimer l'été, il faut aimer l'hiver, il faut accepter tout ce que Dieu a créé. Vous pensiez quoi ? Je vais vous poser des questions. Celle-là, elle n'est peut-être pas intelligente, mais ça ne fait rien. Vous pensiez quoi quand vous avez écouté les jeunes chanter le psaume 8 ? Vous vous rappelez le psaume 8 tout à l'heure ? Vous l'avez écouté ? Vous pensiez à quoi ? Vous pensiez à la grandeur de Dieu ? Moi, vous savez, quand on chante, je m'impose. Parce que justement, il y a peut-être une vingtaine d'années en arrière, plus même, je me suis rendu compte que des fois, je n'écoutais pas. Pendant qu'on chantait, je pensais à autre chose. Ça vous est jamais arrivé ? Bon. Et depuis ce jour-là, je me suis imposé tout le temps d'amener mes pensées captives. Ça fait que j'écoute tout le monde prier. J'écoute les prières. Je peux vous dire ce que tout le monde a prié. Tous. Je peux vous dire si quelqu'un répète toujours la même prière. Ce n'est pas pour dire. Mais j'écoute toutes les prières. Pourquoi ? Parce que je m'impose. Et quand les jeunes chantaient le psaume 8, je qui pensais que Dieu a créé les étoiles, je pensais à un savant qui a écrit dernièrement un article. Écoutez bien, c'est sérieux ce que je vous dis. Il a écrit un article, c'est un scientifique, qui a écrit un article sur Bételgeuse. Bételgeuse, c'est une étoile, écoutez bien, c'est extraordinaire, elle est 1300 fois plus grosse que le Soleil. On la voit le soir, dans le sud, dans la constellation d'Orion. Je vous parle d'Orion parce que la Bible en parle 3 fois. Cette église, 1300 fois plus grosse que le Soleil, ça vous donne une idée ? Oui, qu'est-ce que j'ai dit ?
L'église.
Ouais, c'est une belle église, elle est claire. Ne me contredis pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, ce savant, il a prouvé que normalement, la nuit, il devrait faire jour. Parce que cette lumière immense, comme toutes les étoiles d'ailleurs, envoie leur luminosité sur la Terre. Et il a dit, c'est un mystère, c'est exactement, il a dit, c'est un mystère, nous ne comprenons pas pourquoi la nuit, il fait nuit, la nuit, il devrait faire plus jour que le jour, à cause de toute cette luminosité qui vient des autres étoiles. Parce que Dieu a créé le jour et Dieu a créé la nuit. Et c'est vrai ça. Est-ce que vous vous rendez compte la grandeur de Dieu ? Donc je pensais à ce savant qui a écrit ça, quand on chantait le psaume 8, parce qu'il est parlé des étoiles que Dieu a créées, nous ne nous rendons pas compte la grandeur de ces étoiles, la grandeur de la création. Et mes frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre qu'il y a une nourriture. Comment nourrissez-vous votre âme ? Est-ce que vous lisez pour lire ? Les pharisiens, est-ce qu'ils lisaient la Bible ? Ils la lisaient, oui. Jésus leur a dit, vous sondez, ils lisaient pas la Bible. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils sondaient les Écritures. Ils le faisaient d'une manière religieuse, d'une manière intellectuelle, d'une manière routinière. Parce que nous, nous exhortons intelligemment en plus à lire la Bible, à prier. Mais on peut le faire d'une manière routinière. Vous vous rendez compte ? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mes frères et sœurs, si nous ne mangeons pas la parole de Dieu avec notre âme, avec notre cœur, non seulement nous ne serons pas restaurés, non seulement nous ne réaliserons pas ce qu'est le vrai bonheur, parce que le vrai bonheur, ce n'est pas qu'il faut être toujours heureux, le vrai bonheur, ah, il faut que je gagne davantage, le vrai bonheur, il faut que j'ai davantage de biens matériels. Ce n'est pas ça le bonheur dans la Bible.
Le bonheur dans la Bible, c'est quoi? Eh bien, c'est écrit, oui. Le bonheur, on l'a lu, et la grâce. Le bonheur, il est lié à la grâce de Dieu. Le bonheur, il ne peut être lié qu'à la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, il ne peut pas y avoir de bonheur. Il peut y avoir des bénédictions dans un domaine ou dans un autre. Le bonheur dans la Bible, il est lié à la présence et la grâce de Dieu. On peut perdre la paix. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine à ces textes. On peut perdre la paix et malgré tout être dans la présence de Dieu. Quand vous relisez les psaumes de David, je peux vous dire qu'à des moments, il a vraiment perdu la paix. Les angoisses de mon cœur augmentent, c'est l'image d'un homme qui a vraiment perdu la paix. Mais il est dans la présence, il cherche Dieu. Un homme qui connaît Dieu n'est pas un homme qui prie, n'est pas un homme qui lit la Bible. Un homme qui connaît Dieu est un homme qui le cherche, qui lui fait confiance. Oui, j'ai perdu la paix, mais relisez les psaumes. Je vous dis, ce n'est pas des psaumes de louange, c'est des psaumes de louange et des psaumes de questionnement. Il y a plein de questions dans les psaumes, où on voit des hommes et des femmes qui souffrent, mais c'est la présence de Dieu. C'est important de savoir ce qu'est le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous voyez, s'il pleut, vous êtes content quand il pleut? Non mais sérieusement, vous vous rendez compte, s'il ne pleuvait pas, mes frères et sœurs, la catastrophe, allez dans un pays où il n'a pas plu depuis 6 mois, vous allez voir. Comme ils sont à genoux, les gens en train de prier pour qu'il pleuve. Et nous, quand il pleut, on est contrariés. Ah, moi, je voulais aller faire les courses. Parce que Dieu va empêcher la pluie pour que vous puissiez aller acheter votre jambon beurre. Non, mais sérieusement, si Dieu écoutait les requêtes de chacun par rapport au temps, il pleuvrait là, il ferait beau ici, il ferait frais là, il y aurait des climatiseurs partout dans le ciel. Mes frères et sœurs, soyons intelligents. Et tout le monde peut aspirer à cela. J'ai fait un séminaire la semaine dernière à Narbonne et j'ai commencé avec le texte quand il est dit stupide, et ce n'est pas du tout méprisant. Stupide, apprenez le discernement. Ça veut dire que n'importe qui, si bas soit-il, si pauvre est-il spirituellement, si limité soit-il, nous voyons que n'importe qui peut apprendre le discernement. Et si nous ne faisons pas un sujet sérieux de la nourriture spirituelle, de toute façon, ce que je vais dire, ce n'est pas écrit formellement comme ça, mais on peut le déduire, quelqu'un qui ne cherche pas à grandir, quelqu'un qui ne s'occupe que de son salut, qui entretient le salut, juste le pain, le vin, juste aller à l'église, juste lire un peu la Bible, si vous ne vous occupez que d'entretenir le salut d'une manière superficielle, sans avoir besoin de grandir, donc de vous nourrir, de boire, comme cela a été rappelé dans la Sainte-Seine, eh bien, vous risquez de rétrograder, d'abandonner Dieu, de sortir de la volonté, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de la volonté de Dieu? Combien de frères et de sœurs, chaque jour, sortent de la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux cette affaire d'épreuve, cette épreuve de croissance, car Dieu nous éprouve. Hier soir, je me suis endormi en pensant, parce que vous savez, quand vous lisez les livres, avec quand vous regardez les... Il y a des Bibles avec des gravures, vous savez. Il y a des Bibles avec des belles gravures qui expriment Moïse qui est sur la montagne, les 2 tables à la main, vous savez, 2 tables de pierre, là, la barbe, les yeux remplis de lumière, etc. Quand il tend son bâton et qu'il ouvre la mer rouge, c'est sûr que... Mais moi, j'aurais aimé avoir une photo. Mais sérieux, ce que je le pense parce qu'on a essayé d'embellir les choses. Vous savez, quand Moïse fuyait en Égypte, fuyait Pharaon. Il fuyait Pharaon parce que Pharaon, il avait eu l'idée de le tuer. Il fuyait Pharaon. Et ça a duré quand même quelques jours, puisque pendant 40 ans, il est resté dans le désert. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il n'y a pas que les mers qui s'ouvrent et les tables de la loi sur le mont Horeb. Il y a aussi les moments où on peut fuir. Il fuit. Je lisais ce matin quand Dieu l'appelle 40 ans après, parce que 40 ans à avoir fui, à s'être posé des questions, et qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Vous en avez fait des erreurs? Est-ce que vous n'êtes pas en train... J'espère que vous ne laissez pas le diable vous détruire avec les erreurs que vous avez faites. 40 ans, ça commence à faire quand même. Et quand vous le voyez, 40 ans après, qu'il commence à vouloir obéir à Dieu, il part avec sa femme Séphora, et en pleine nuit, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu, il veut le faire mourir. Vous avouerez quand même qu'il y a des choses un peu compliquées. Oui ou non ? Dieu veut le faire mourir. Et pourquoi ? Non mais ça ne tient pas debout. 40 ans d'épreuve, il a fui. Personne ne l'a compris. Il arrive à l'âge de 80 ans. 80 ans, tu te dis, bon, 80 ans, est-ce que Dieu peut m'utiliser ? Je vais vous dire, l'utilité dans l'Église, ça n'a rien à voir avec l'âge. Jamais. Et Dieu veut le faire mourir. Sa femme, elle a compris pourquoi. Il y avait un gros différend avec sa femme. Je dis ça parce que je suis poussé à vous le dire. Vous savez, dans un foyer, il peut y avoir de gros différends avec son conjoint au niveau du service. Oui ou non ? On va le lire. Pour ceux qui me regardent avec des drôles d'œil. Parce que j'y vois très bien. Et certains de vos regards pensent peut-être que M. Gou, il est fatigué. Non. Exode chapitre 4. 40 ans ont passé. 40 ans de fuite, de souffrance. Il a épousé une dame, une jeune fille qui s'appelait Séphora. Séphora, ça veut dire petit oiseau. Exode chapitre 4, verset 24. Je vous le dis, mes frères et sœurs, regardez avec moi. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, regardez bien, ça fait 40 ans qu'il a attendu. Il est dans la volonté de Dieu et il est dit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Ce n'est pas une plaisanterie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Séphora, donc petit oiseau, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Pour qu'on comprenne mieux l'affaire, quelques mois après, aussi au chapitre 18, c'est important ça, vous voyez, c'est pas Moïse sur la montagne avec les tables, c'est pas Moïse qui ouvre la mer, c'est Moïse qui est dans des difficultés sévères avec sa femme. Ah bon, un pasteur, il peut avoir des difficultés avec sa femme ? Exode chapitre 18, verset 2. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Donc, Moïse avait renvoyé sa femme auprès de son père. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une incompréhension sévère dans le plan de la volonté de Dieu. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous, quand on parle de... quand on voit certaines situations, on ne voit pas la souffrance. On voit que les exploits, et c'est une grosse erreur quand un serviteur de Dieu dit « il ne faut plus chanter de cantiques tristes dans l'Église », moi je crois qu'il y a de la souffrance qui doit être exprimée. Si Dieu a voulu que le psaume 88 soit dans la Bible, c'est parce que ça parle de notre vie spirituelle. À des moments, on a besoin d'exprimer la souffrance, oui ou non, mais il faut l'exprimer auprès du Seigneur. Donc je reviens à mon bonheur. Le bonheur, ce n'est pas les biens matériels, ça y contribue, si vous en avez, que Dieu soit béni. Mais le bonheur dans la Bible, il est lié à quatre points forts. Le bonheur, il est lié à cette grâce. Quand David a tué Goliath, là aussi, vous voyez, mais est-ce que quand il a commencé à aller vers... Parce qu'on sait comment ça s'est terminé. On sait comment ça s'est terminé. Donc on voit David en train de... Bien sûr, mais vous ne croyez pas qu'il y a peut-être eu un moment quand même de... Quand il s'est approché, même s'il l'a tué à distance avec sa fronde... Vous ne croyez pas qu'il y a eu quand même un moment, il y a quand même eu un moment de... Non ? Et il faut, nous on sait comment Lazare, ça s'est terminé pour Lazare, tout ça, comment on connaît la fin des histoires, et ça nous abîme notre lecture biblique ça, parce qu'on sait comment ça s'est terminé. Mais on devrait faire attention mes frères et sœurs, que le vrai bonheur dans la Bible, le vrai bonheur, on peut l'avoir même, je vais un peu loin dans mon analyse, mais on peut l'avoir même si dans un moment de souffrance, on perd la paix. Le bonheur dans la Bible, quand vous lisez bien les psaumes, il est lié à la présence de Dieu. C'est pour ça que le bonheur, il est lié à la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. juste après, les angoisses de son cœur augmentent. C'est clair que quand on a des angoisses, je pense qu'on n'a pas beaucoup la paix. Il a perdu la paix. Mais il a la grâce de Dieu, parce qu'il parle à Dieu. Quand il dit dans le psaume 2, « Heureux tous ceux qui se confient en lui », le bonheur, il est lié à la foi. Mais la foi, je vais vous dire, la foi sans la grâce de Dieu, elle servirait à quoi ? À rien. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, même si on met en avant la foi, elle ne servirait à rien. Donc le bonheur, il est lié à la grâce. Le bonheur, il est lié à la foi. Le bonheur, il est lié à la crainte de Dieu. Dans le psaume 25, on va le lire pour ceux qui demandent à Dieu toujours des bénédictions. « Seigneur, bénis-moi, je serai heureux. » Non, 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 ce n'est pas vrai. Vous serez heureux, regardez, c'est facile à comprendre. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, je vous le dis. Dans le psaume 25, justement, tiens, on l'a lu tout à l'heure. Dans le psaume 25, il est dit, par rapport à ceux qui craignent l'Éternel, voyez ? Psaume 25, verset 12 et 13. Là, vous avez vraiment cette pensée. Comment un homme peut-il être heureux ? Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Où reposera son âme ? Voyez ? Et c'est après qu'il va expliquer toute cette souffrance qu'il exprime à Dieu. N'ennuyez pas les gens avec votre souffrance, à part des gens que vous connaissez bien, des fois ça fait du bien. Est-ce que ça fait du bien des fois de parler à quelqu'un ? Mais c'est une chose de temps en temps de se confier à quelqu'un pour lui demander de prier. Ça n'est une chose que de fatiguer les gens et de ne jamais avoir confiance en Dieu. Vous comprenez la différence ? Vous pouvez dire à quelqu'un, tu sais, prie pour moi, en ce moment je suis fatigué, je traverse des moments difficiles, mais vous savez, sérieusement, vous le savez en plus, vous le savez tous si vous êtes spirituel. Vous le savez tous, quand vous vous retournez, vous avez traversé cette épreuve, vous avez dit, j'avais pas compris, mais qu'est-ce que j'ai appris ? Mais qu'est-ce que j'ai appris ? Moi, souvent, on me demande comment ça va, je dis, oui, ça va. Mais quand ça va pas, ça va bien. Puisque je sais que je suis en train d'apprendre quelque chose. Si nous aimons Dieu, si dans un moment où, c'est dans l'Ésaïe 50, ce verset qui me vient à cœur, Ésaïe 50, dans ces moments où on peut être, alors, Ésaïe 50, oui, Ésaïe 50, verset 10. Regardez bien ce passage, frères et sœurs. Je pense que c'est vraiment important que nous comprenions bien que c'est la présence de Dieu qui détermine le bonheur et pas l'absence de paix, même s'il ne faut pas la perdre longtemps, la paix quand même. Ésaïe 50, regardez bien. Verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, à quoi on reconnaît quelqu'un qui craint Dieu ? Qu'il écoute la voix de son serviteur. Si vous craignez Dieu, vous écouterez Dieu. Si vous craignez Dieu, vous n'aurez pas tout baladé parce que Dieu ne vous a pas répondu et parce que Dieu permet des temps de silence. Je ne comprends pas ces temps de silence. Demandez à Joseph s'il n'a pas connu le silence, vous allez voir. Et ce n'est pas pour ça que Dieu n'agit pas. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » Regardez bien la suite. Je pense que c'est ce verset qu'il fallait que je lise. « Quiconque... » Regardez bien, frères et sœurs. Il parle à des chrétiens. « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. » Tiens donc, ça peut arriver qu'un chrétien soit dans les ténèbres, qu'un chrétien manque de lumière, ça peut arriver. Mais bien sûr, arrêtons de jouer la comédie et de vouloir croire qu'il faut qu'il y ait que du beau temps, qu'il n'y ait que des étés dans les églises. Il doit y avoir toutes les saisons, il doit y avoir toutes ces choses que j'ai dit tout à l'heure. Il faut des cantiques joyeux. Moi, je demande aux meneurs de chant de commencer toujours avec un cantique sur la joie du salut, s'ils le font. Après, il y a toutes sortes d'émotions, de sentiments. Un chrétien, à un moment donné, peut marcher dans l'obscurité. Mais à quoi reconnaît-on un chrétien spirituel ? Eh bien, il y a cette crainte, il y a ce respect. Seigneur, je ne comprends pas. Moïse, il a dû... Ça me fait 40 ans à se poser des questions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait 40 ans quand il est parti, il a fui parce qu'on voulait le tuer, lui, le futur libérateur d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 ans. Que quand il a commencé, il a été obligé de renvoyer sa femme parce qu'elle ne comprenait pas tout. Oui, il y a de la souffrance. Moi, vous savez, plus j'étudie la Bible, plus je me rends compte qu'on nous a enseigné des bêtises. Le bonheur, il est lié à la grâce, de sa présence. Le bonheur, il est lié à la foi, de rester dans sa présence. C'est pour ça que ces cantiques ont été écrits. Le bonheur, il est lié à la crainte. Son âme reposera dans le bonheur. Et pourtant, je peux vous dire que juste après, il exprime vraiment de la souffrance. Et après, il y a le bonheur aussi lié au fait de servir Dieu dans l'Église. Dans le psaume 65, et ça je pense que beaucoup de chrétiens, il faut absolument que vous vous ressaisissiez. Vous avez entendu le don spirituel tout à l'heure. Le don spirituel nous rappelait que Jésus va revenir. Vous allez me dire, mais ça fait 30 ans qu'on l'entend. Ça fait 2000 ans qu'on l'entend. Moi je vous dis que Jésus est à la porte. Et que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts. Beaucoup de chrétiens ont négligé l'évangélisation. Vous devriez tous savoir ce que vous négligez. Pourquoi la question de la nourriture est importante? Parce que si vous ne vous nourrissez pas, bien sûr, si vous lisez pour lire, je répète, et si vous priez pour prier, que ce qui ne sert à rien, comme les pharisiens qui lisaient, qui sondaient, mais qui ne voulaient pas venir à Jésus-Christ. Donc, dans le psaume 65, il est fait mention de notre aspect du bonheur. Il faut quand même en parler, parce que c'est très important. Psaume 65, verset 5, regardez bien. Heureux, celui que tu choisis. Vous savez, c'est une chose d'être sauvé. Ça n'est une autre d'être choisi. Je ne sais pas si vous captez la différence. Ça n'est une autre, je le répète, c'est une chose d'être sauvé, ça n'est une autre d'être choisi. C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Je ne parle pas des pasteurs, tous les chrétiens peuvent être choisis. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence. Voilà, le bonheur, c'est la présence de Dieu. Pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Est-ce que vous vous rassasiez de la présence de Dieu à l'église? Ou est-ce que vous êtes venu parce qu'il faut venir à l'église? Ou est-ce que vous vous rassasiez de la volonté de Dieu? Ma nourriture... Vous vous rendez compte, le chrétien qui peut dire ça? Sérieusement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut le dire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bénédiction suprême, la plénitude. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes obligés, compte tenu de l'Assemblée Générale, qui est importante aussi, je vous encourage à écouter ce qui va être dit. Mais mes frères et sœurs, moi, je vous le dis parce que je suis votre pasteur. Je ne suis pas un évangéliste, c'est vrai, je fais de l'évangélisation. Mais je suis votre pasteur. C'est ma responsabilité de vous nourrir. Et que vous appreniez vous-même à vous nourrir. Parce que, attention de ne pas penser que toute la nourriture vient du pasteur. La nourriture, elle doit venir de votre propre faim, de votre propre soif, comme cela a été dit tout à l'heure. Parce que Jésus va revenir, et croyez-moi, beaucoup de chrétiens n'auront fait aucun progrès, n'auront pas grandi, ils auront été légers, ils auront de là, ça pour sortir, ils auront... Je le dis, ça fait un peu légaliste, mais vous savez que je ne le suis pas. Il y a ça, des forces pour sortir jusqu'à minuit, pour aller au cinéma, pour aller ci, pour aller là, ils en ont... Pour aller à la réunion de prière, ils n'en ont pas. Et c'est vrai en plus. Mais c'est vrai. Parce que leur âme est malade. Et je dis ça, on devrait tous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Je vais passer devant toi, je vais bientôt partir, c'est important. Il y a un mois de cela, j'ai été voir un monsieur, je ne vais pas dire un frère, parce que quand il m'a dit, et je vous le dis pour que vous compreniez bien que c'est sérieux cette affaire. Quand je suis rentré, il me dit, bonjour frère. J'ai dit, écoutez, moi je ne peux pas vous appeler frère. Je ne peux pas vous appeler frère. Et vous savez très bien, ah, monsieur Gros, vous êtes dur avec moi. J'ai dit, mais écoutez, vous risquez de mourir bientôt. Il est mort 3 semaines après. J'ai dit, mais vous comprenez bien que ma responsabilité, c'est de veiller sur votre âme. Vous êtes tout le temps dans la désobéissance. Non, je suis dans l'épreuve. Non. L'épreuve, moi aussi, j'y suis des fois. Mais on devrait quand même tous se poser la question, mais est-ce que je connais cette nourriture? dans la bénédiction et dans la souffrance. Et il faut les deux. Et il faut les deux. Et j'aimerais, mes frères et sœurs, que nous nous posions vraiment la question, mais Seigneur, est-ce que je connais ces fleuves d'eau vive ? Est-ce que je connais cette nourriture que même les apôtres, à un certain moment donné, n'avaient pas saisie ? Vous ne croyez pas que ça vaut la peine qu'on soit rassasié ? Il y a quelqu'un qui a envie d'être rassasié ? Rassasié ? Ma nourriture, ma satisfaction, mon rassasiement, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pas beau ça ? Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Demandons-lui son aide. Beaucoup sont là par habitude. Et je vous en supplie, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez réalisé. Il y a des fleuves d'eau vive. Quand Jésus a multiplié les pains, il est écrit, avec un petit pique-nique de rien, hein, il nous est dit qu'il y avait 12 paniers pleins. 12, tiens donc, de rabbins. Un pour les apôtres. Un pour chacun. C'est drôle le hasard. Qu'est-ce que c'est drôle le hasard ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que même quand vous avez pris tout ce que vous aviez besoin, les ruisseaux sont toujours pleins. Les greniers, c'est ça que ça veut dire. Que vous n'épuiserez jamais les greniers célestes. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous l'avez compris, ça ? Vous n'épuiserez jamais les greniers du ciel. C'est impossible. Notre Père, quel privilège sur la terre de pouvoir t'appeler notre Père. Fallait-il que tu nous aimes, nous qui t'avons crucifié ? Tu nous donnes cette autorisation de t'appeler Père. Merci Seigneur. Et en plus, tes greniers sont pleins, tes fleuves sont pleins. Et nous te prions, Seigneur, afin que nous nous nourrissions et que nous croissions, que nous progressions, afin que lorsque tu reviendras nous chercher, individuellement ou collectivement, nous ayons une chose, Seigneur, c'est de faire ta volonté. Et je te demande vraiment, Seigneur, de libérer de la légèreté, de la routine, délivre, Seigneur, ce qui au milieu de nous sont remplis de légèreté et qui ne s'occupent pas de cette croissance. Délivre-les, Seigneur, afin que tous, dans cette assemblée où tu nous as placés, nous soyons prêts pour le jour où tu reviendras. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.